Épître aux Romains, chapitre 14.
Lecture de la parole. Or, quant à celui qui est faible en foi, recevez-le, non pas pour la décision de questions douteuses. L'un croit pouvoir manger de toutes choses, l'autre, qui est faible, mange des herbes. Que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange, car Dieu l'a reçu. Qui es-tu, toi qui juges le domestique d'autrui? Il se tient debout, ou il tombe pour son propre maître, et il sera tenu debout, car le Seigneur est puissant pour le tenir debout. L'un estime un jour plus qu'un autre jour, et l'autre estime tous les jours égaux, que chacun soit pleinement persuadé dans son propre esprit. Celui qui a égard au jour, y a égard à cause du Seigneur, et celui qui mange, mange à cause du Seigneur, car il rend grâces à Dieu, et celui qui ne mange pas, ne mange pas à cause du Seigneur, et il rend grâces à Dieu, car nul de nous ne vit ayant égard à lui-même, et nul ne meurt ayant égard à lui-même, mais soit que nous vivions, nous vivons ayant égard au Seigneur. Soit que nous mourions, nous mourons ayant égard au Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes du Seigneur. Car c'est pour cela que Christ est mort et qu'il a revécu, afin qu'il dominât et sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou aussi, toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Car nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, que tout genou se ploiera devant moi, et que toute langue confessera hautement Dieu. » Ainsi donc, chacun de nous rendra compte pour lui-même à Dieu. Ne nous jugeons donc plus l'un l'autre, mais jugez plutôt ceci, de ne pas mettre une pierre d'achoppement ou une occasion de chute devant votre frère. Je sais, et je suis persuadé dans le Seigneur Jésus que rien n'est souillé par soi-même, sauf qu'à celui qui croit qu'une chose est souillée, elle lui est souillée. Car si, à cause d'une viande, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne détruis pas par ta viande celui pour lequel Christ est mort. Que ce qui est bien en vous ne soit donc pas blâmé. Car le royaume de Dieu n'est pas manger et boire, mais justice et paix, et joie dans l'Esprit Saint. Car celui qui en cela sert le Christ est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, poursuivons les choses qui tendent à la paix et celles qui tendent à l'édification mutuelle. À cause d'une viande, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Toutes choses, il est vrai, sont pures, mais il y a du mal pour l'homme qui mange en bronchant. Il est bon de ne pas manger de chair, de ne pas boire de vin, et de ne faire aucune chose en laquelle ton frère bronche, ou est scandalisé, ou est faible. Toi, tu as de la foi, et là pars-tu vers toi-même devant Dieu. Bienheureux est celui qui ne se juge pas lui-même en ce qu'il approuve. Mais celui qui hésite s'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas sur un principe de foi. Or, tout ce qui n'est pas sur le principe de la foi est péché.
Lecture de l'étude. La présence dans l'assemblée de Rome d'un si grand nombre de croyants autrefois juifs fut une cause, comme nous l'avons déjà vu, de bien des difficultés. C'est compréhensible, le contraste entre les éléments juifs et ceux des nations amenait facilement un désaccord. Les croyants, sortis du judaïsme, habitués dès leur jeunesse à l'observation sévère et cérémonielle des jours, à l'abstention de certains aliments, etc., ne pouvaient que difficilement se débarrasser de ces choses. En revanche, pour les chrétiens sortis du paganisme, cette difficulté n'existait pas. Il y avait, semble-t-il, à Rome, beaucoup de croyants qui se sentaient encore obligés dans leur conscience à observer l'une ou l'autre des ordonnances mosaïques, tandis que d'autres, qui avaient reconnu en Christ la fin de la loi et trouvé dans sa mort la délivrance de toute servitude légale, marchaient dans la liberté dans laquelle Christ les avait placés. L'apôtre nomme les uns faibles, les autres forts. Nous ne devons donc aucunement nous représenter sous le terme de faibles des croyants qui montraient dans leur marche du laisser-aller ou même de l'infidélité. Ils étaient bien plutôt d'une délicatesse de conscience exagérée, s'efforçaient anxieusement de plaire à Dieu par l'observation des anciennes ordonnances juives et cherchaient à y trouver le repos de leurs âmes. Sachant que les choses anciennes étaient ordonnées de Dieu, ils étaient faibles pour saisir la nouvelle position du croyant en Christ, l'homme ressuscité. En revanche, les croyants sortis du paganisme avaient reconnu que tout le système idolâtre dont ils avaient été délivrés était une mauvaise œuvre de l'ennemi, et c'est pourquoi ils n'étaient pas en grand danger de maintenir certaines pratiques païennes. Comment fallait-il donc traiter de telles personnes faibles dans la foi? Est-ce que ces choses extérieures devaient devenir un sujet de dispute? Devait-on mépriser et repousser les faibles? Non. Certes, la nature humaine, aujourd'hui comme autrefois, est disposée à agir de cette manière, mais pas l'amour. Aujourd'hui comme autrefois, le danger qui menaçait le témoignage chrétien dans ses premiers jours subsiste dans tous les temps. Et aujourd'hui encore, on peut fréquemment trouver sous une forme ou sous une autre le « ne touche pas, ne goûte pas ». Beaucoup de croyants font comme s'ils vivaient encore dans le monde et étaient soumis encore à toutes sortes d'ordonnances. Beaucoup d'entre eux ne connaissent pas la vraie liberté qui met le croyant à même de chercher les choses qui sont en haut et d'y penser. L'apôtre commence son enseignement par ces mots « Or, quant à celui qui est faible en foi, recevez-le », non pas pour la décision de questions douteuses. Il commence par enlever ainsi à cette question difficile à traiter son côté tranchant. Recevez, et non pas repousser, condamner. L'amour a toujours sa façon particulière de s'occuper des choses. Il agit en grâce, supporte tout, et ainsi ne repousse pas froidement, mais il dit « C'est pourquoi recevez-vous les uns les autres » comme aussi le Christ vous a reçu à la gloire de Dieu. Chapitre 15, verset 7. Il prend comme modèle Christ et sa manière d'agir. Certes, il n'incombait pas à celui qui était faible de décider des questions douteuses dans les cas où l'Écriture ne donne pas une indication précise, mais où la réponse est laissée à l'intelligence spirituelle de l'individu. Le faible n'était pas apte à décider. L'un croit pouvoir manger de toutes choses. L'autre, qui est faible, mange des herbes, verset 2. Le faible montrait la faiblesse de sa foi dans le fait de se faire un scrupule de conscience de manger de la viande. Il ne vivait pas dans la lumière et la puissance de la nouvelle création, et ainsi il avait de la peine à considérer les éléments du monde comme faibles et ruinés. De cet état de choses, il résultait pour les croyants de Rome deux dangers. Les uns, les forts qui croyaient pouvoir manger de tout, en venaient facilement à considérer leurs frères plus faibles avec mépris. Les autres étaient en danger de juger leurs frères, parce que ceux-ci faisaient ce que leur conscience, à eux, leur défendait. Or, que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange, car Dieu l'a reçu, verset 3. L'apôtre place ainsi toute la question sur un terrain qui engageait l'un aussi bien que l'autre. Dieu avait aussi bien reçu le croyant sorti d'Israël que celui qui était autrefois païen, le faible comme aussi le fort. Sans doute, celui qui croyait pouvoir manger de tout avait une pensée plus juste que son frère qui, par scrupule de conscience, ne mangez que des herbes. Mais si désirable et si bonne que soit la connaissance, l'amour, le vrai amour lui est encore supérieur. C'est lui qui garde le fort de mépriser son frère plus faible, et qui garde le faible de juger son frère plus fort. En poursuivant plus loin cette dernière pensée, l'apôtre dit « Qui es-tu, toi qui juges le domestique d'autrui ? Il se tient debout, ou il tombe pour son propre maître, et il sera tenu debout, car le Seigneur est puissant pour le tenir debout. » Verset 4. De quel droit juges-tu le domestique d'autrui ? Est-il responsable à ton égard ? N'est-ce pas à l'égard de son maître ? Se tient-il debout ? Ou tombe-t-il pour toi ou pour lui? Est-ce que son maître qu'il désire servir ne le tiendra pas debout? En vérité, il peut le faire, alors même que dans notre folie, nous pourrions penser autrement. D'ailleurs, nous devons toujours nous rappeler que notre chapitre traite de questions de conscience, que l'un tranche d'une manière et l'autre d'une autre, et non pas de mauvaises actions. Je ne dois jamais tolérer le péché chez mon frère. Mais ici, il ne s'agit pas de péché. Et si nous sommes exhortés à nous supporter les uns les autres dans l'amour et à nous pardonner les uns aux autres, quand l'un a un sujet de plainte contre un autre, combien plus devrions-nous nous supporter dans ces questions de conscience ? Colossiens 3, verset 13.
Vous supportant l'un l'autre et vous pardonnant les uns aux autres, si l'un a un sujet de plainte contre un autre, comme aussi le Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même.
L'apôtre donne les exemples suivants. L'un qui estime un jour plus qu'un autre le fait à cause du Seigneur. Il y a égard à cause du Seigneur. Et l'autre, pour le même motif, estime tous les jours égaux. En outre, celui qui mange, mange à cause du Seigneur, en rendant grâces à Dieu pour la nourriture qu'il prend, et celui qui ne mange pas, ne mange pas à cause du Seigneur, et il rend grâces aussi à Dieu. Qui peut donc mépriser et juger l'un ou l'autre pour ce qu'il fait ou ne fait pas? Est-ce que tous deux ne désirent pas servir le Seigneur et lui plaire, s'ils le font d'une manière différente, selon la mesure de leur intelligence spirituelle? Ne sont-ils pas responsables à l'égard de lui seul? En outre, d'où le fort tire-t-il sa force? Est-ce que ce n'est pas la grâce qui le maintient debout comme aussi le faible? Il y a une chose pourtant qu'il ne faut pas négliger, que chacun soit pleinement persuadé dans son propre esprit. Versets 5 et 6. C'est ainsi qu'il pourra, d'un cœur heureux, suivre son chemin. Combien le Seigneur rencontre peu d'intelligence chez les siens à cet égard. À cette occasion, il faut remarquer toutefois que le premier jour de la semaine n'est pas l'un de ces jours que l'on est libre de ne pas observer. En Apocalypse 1, verset 10, il est expressément nommé le jour du Seigneur, un jour qui lui appartient d'une manière particulière.
Je fus en esprit dans la journée dominicale.
Il est consacré par la résurrection de notre Seigneur et Sauveur qui eut lieu au matin de ce jour et par son apparition le même soir au milieu de ses disciples rassemblés. Jean 20.
Jean 20, versets 19 à 23. Le soir donc étant venu ce jour-là, le premier de la semaine, et les portes du lieu où les disciples étaient par crainte des Juifs étant fermées, Jésus vint et se tint au milieu d'eux. Et il leur dit « Paix vous soit ». Et ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent donc quand ils virent le Seigneur. Jésus donc leur dit encore « Paix vous soit ». Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et ayant dit cela, il souffla en eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À quiconque vous remettrez les péchés, ils sont remis, et à quiconque vous les retiendrez, ils sont retenus. »
Acte 20, verset 7.
Et le premier jour de la semaine, lorsque nous étions assemblés pour rompre le pain, Paul, qui devait partir le lendemain, leur fit un discours, et il prolongea le discours jusqu'à minuit.
Et 1 Corinthiens 16. Pour le chrétien qui sait qu'il est mort et ressuscité avec Christ, il n'y a pas de jour qui puisse être comparé au jour de la résurrection de son Sauveur. Il l'aime et l'honore, non pas comme un commandement légal, mais parce qu'il est le signe caractéristique et précieux de l'économie actuelle de la grâce, le jour dans lequel il se réunit avec ses frères pour penser à son Seigneur, pour lui exprimer sa reconnaissance et pour annoncer sa mort. Après cette courte digression, revenons à notre sujet. Nous avons donc à nous garder de mépriser ou de juger, car nul de nous ne vit ayant égard à lui-même, et nul ne meurt ayant égard à lui-même, verset 7. Ce fait, vrai dans un sens de tous les hommes, est appliqué ici avant tout aux chrétiens. Et soit que nous vivions ayant égard au Seigneur, soit que nous mourions, nous mourons ayant égard au Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes du Seigneur, verset 8. Réalité précieuse. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, ni dans la vie, ni dans la mort. Nous sommes à notre Seigneur. Nul de nous ne vit ou ne meurt ayant égard à lui-même. L'apôtre fait reposer ce fait sur la mort et la résurrection de Christ, par lesquels il a acquis, comme homme, tous ses droits sur nous et son droit de dominer sur les vivants et les morts. Car c'est pour cela que Christ est mort et qu'il a revécu, verset 9. C'est en lui, le vainqueur de la mort, que nous sommes à l'abri pour toujours. Il est notre Seigneur à qui nous devons tout, qui nous a acquis à si grand prix, et à qui nous sommes tenus de rendre compte de notre conduite, et nous ne pouvons empiéter impunément sur ses droits. C'est pourquoi il est dit, « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère ? » Ou aussi, « Toi, pourquoi méprises-tu ton frère ? » Vous deux, le faible ou fort, vous confessez appartenir corps et âme à ce puissant Seigneur qui est appelé à dominer sur les vivants et les morts, et vous vous jugez, et vous vous méprisez les uns les autres ? Combien votre conduite est insensée et inconvenante. Ne savez-vous pas que nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu, verset 10. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, que tout genou se ploiera devant moi, et que toute langue confessera hautement Dieu. » Ainsi donc, chacun de nous rendra compte pour lui-même à Dieu, verset 11 et 12. Si donc tout genou, de croyants et de non-croyants, doit se ployer devant Dieu, et si chacun de nous doit rendre compte pour lui-même à Dieu, qu'avons-nous donc maintenant à nous juger l'un l'autre ? N'est-ce pas en réalité nous attribuer les droits de Dieu ? C'est pourquoi ne nous jugeons donc plus l'un l'autre, verset 13. Avant d'aller plus loin, j'aimerais m'arrêter un instant encore sur le mot de tribunal. Nous trouvons cette expression au verset 11 et en 2 Corinthiens 5, verset 10.
Car il faut que nous soyons tous manifestés devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive les choses accomplies dans le corps, selon ce qu'il aura fait, soit bien, soit mal.
Ici, en rapport avec Dieu, là, en rapport avec Christ. Mais ni dans l'un, ni dans l'autre de ces passages, il n'est dit que le croyant doit être jugé devant ce tribunal. Cela signifierait sa condamnation éternelle. Le juste jugement de Dieu a atteint Christ à la croix. Ainsi, le jugement ne peut plus atteindre le croyant. Mais sa vie entière doit être manifestée. Le bien et le mal seront vus à la lumière infaillible de ce tribunal, de sorte que le croyant recevra une récompense ou subira une perte selon ce qu'il aura fait. Nous sommes tous des êtres qui devons rendre compte au Dieu devant lequel devra se ployer un jour tout genou, des serviteurs et des servantes qui ont leur responsabilité dans le service et dans l'administration de ce qui leur a été confié par le Seigneur. Si nous avons dans nos cœurs le sentiment réel que chacun d'entre nous doit une fois rendre compte à Dieu de sa conduite, nous ne jugerons pas les autres, mais nous aurons le désir de plaire au Seigneur qui nous aime, nous et nos frères, du même amour, et cet amour nous fera éviter ce qui pourrait scandaliser nos frères. Ces paroles de l'apôtre nous disent qu'il nous convient plutôt de nous juger nous-mêmes dans notre conduite. Il était pleinement persuadé dans le Seigneur Jésus que rien n'est souillé par soi-même, sauf à celui qui croit qu'une chose est souillée, verset 14. Il connaissait les pensées du Seigneur à cet égard et s'élevait au-dessus des questions relatives au manger et au boire. Son cœur était affermi par la grâce. Hébreux 13, verset 9.
Ne soyez pas séduits par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, non par les viandes, lesquelles n'ont pas profité à ceux qui y ont marché.
Et l'amour de Christ, ainsi que la liberté qu'il possédait en lui, le gardait de profiter de quoi que ce soit d'une occasion pour la chair. Il préférait se passer de viande que d'être une occasion de chute pour son frère. 1 Corinthiens 8, verset 13.
C'est pourquoi, si la viande est une occasion de chute pour mon frère, je ne mangerai pas de chair, à jamais, pour ne pas être une occasion de chute pour mon frère.
Car si, à cause d'une viande, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne détruis pas par ta viande celui pour lequel Christ est mort, verset 15. Si moi-même je suis fort, et si je sais que rien n'est souillé en soi-même, je dois toutefois avoir égard à la conscience de mon frère et ne pas l'attrister à cause d'un aliment. C'est l'amour qui doit, comme nous l'avons dit déjà plus haut, me diriger. Si j'agis autrement, ce n'est pas d'une manière conforme à celle de Christ, et je détruis, pour autant qu'il dépend de moi, mon frère pour lequel Christ est mort. Il a donné sa vie pour le faible comme pour moi. Ne puis-je, à cause de lui, me passer d'un aliment, au lieu de l'engager, peut-être par ma conduite, à faire une chose que sa conscience lui défend, et à pécher? Je le conduirai dans un chemin qui se terminerait par la destruction si la grâce de Dieu n'intervenait pas. Pareillement, en 1 Corinthiens 8, verset 11, Paul dit « Par ta connaissance, le faible périra. Ma conduite rend donc l'œuvre de Christ sans valeur. » Pour autant que cela dépend de moi. Que ce qui est bien en vous ne soit donc pas blâmé, verset 16. La liberté dans laquelle nous sommes comme chrétiens est précieuse, mais prenons garde que notre conduite ne nous donne pas la fâcheuse réputation d'une liberté charnelle. Gardons-nous aussi de vouloir imposer à nos frères une chose que nous considérons comme permise, alors qu'ils ont des scrupules à l'accomplir. Une telle manière d'agir tend à la destruction au lieu de contribuer à l'édification, car, si mesquine que de telles questions de manger et de boire puissent nous paraître en elles-mêmes, elles ont ce résultat. Car le royaume de Dieu n'est pas manger et boire, mais justice et paix et joie dans l'Esprit Saint, verset 17. Le lecteur comprendra que l'expression « royaume de Dieu » n'a pas ici le sens d'une période dans les différentes économies de Dieu, mais qu'il faut le comprendre dans un sens moral ou spirituel. Considéré sous ce point de vue, le royaume de Dieu n'a rien à faire avec les choses passagères de cette vie, mais comprend les biens spirituels qui sont la part du chrétien, la justice et la paix et la joie dans l'Esprit Saint, ce dont il jouit dans son être intérieur, qui le fait marcher par l'Esprit, et le garde de suivre la chair en quoi que ce soit. Car celui qui en cela sert le Christ est agréable à Dieu et approuvé des hommes, verset 18. En cela, comme en toute autre chose, nous sommes appelés à servir Christ, et si quelqu'un le fait avec fidélité et simplicité de cœur, il peut compter sur le bon plaisir de Dieu et sera un témoignage et une bénédiction pour ses semblables. Ainsi donc, poursuivons les choses qui tendent à la paix et celles qui tendent à l'édification mutuelle, verset 19. Dieu est nommé le Dieu de paix, et le Seigneur également, le Seigneur de paix, qui nous donne toujours la paix en toute manière, de Thessaloniciens 3, verset 16.
Or le Seigneur de paix lui-même vous donne toujours la paix en toute manière, le Seigneur soit avec vous tous.
Ne devons-nous donc pas tendre aussi à ce qui est de la paix, et à l'amour qui ne détruit pas, mais qui édifie. Ne devons-nous pas chercher à nous servir et nous édifier les uns les autres? La connaissance sans l'amour élève à nos propres yeux et nous met en danger de détruire, à cause d'un aliment, l'œuvre de Dieu. Combien est sérieuse cette pensée ! Il est certain que toutes choses sont pures pour celui qui mange sans broncher, verset 20. Toutefois, est-ce que je dois, par ma liberté, exposer mon frère faible à manger en bronchant ? Non. L'amour dit, il est bon de ne pas manger de chair, de ne pas boire de vin, et de ne faire aucune chose en laquelle ton frère bronche, ou est scandalisé, ou est faible, verset 21. Pour le faible, il peut y avoir bien des choses, peut-être même des prétextes futiles, qui le font broncher ou qui le scandalisent. Mais l'amour ne le traite pas pour cela avec dédain. Au contraire, il cherche son bien avec fidélité et le renoncement à soi-même. Le verset 22 renferme une règle de conduite importante dans tous les temps pour le fort. Nous l'avons déjà dit qu'il vaut mieux être fort dans la foi que faible dans la foi, mieux marcher dans une vraie liberté chrétienne que de se placer sous un joug légal. Mais, mon lecteur, si cette part meilleure est la tienne, aie alors la foi par devers toi-même devant Dieu. Prends garde de ne pas te permettre des choses que Dieu ne peut approuver. Bienheureux est celui qui ne se juge pas lui-même en ce qu'il approuve. Il en serait alors de toi exactement ce qui en est du faible qui hésite s'il mange. Outre le fait que tu fais peut-être broncher ton frère faible, tu es condamné parce que, comme lui, tu n'agis pas sur un principe de foi. Or tout ce qui n'est pas sur le principe de foi est péché, verset 23. C'est un second principe extrêmement important. Notre liberté, dans telle ou telle chose, même dans les plus simples de la vie journalière, ne peut se fonder que sur la foi, afin que ce que nous faisons puisse subsister devant Dieu. Si un croyant se permet une chose qui n'est pas sur ce terrain, c'est un péché pour lui.